Et nous sommes en Alsace, vous l'avez très bien compris, Michel Khalifa, parce que c'est un des points d'orgue culturel de cette région, donc cette foire du livre de Saint-Louis. Et c'est une émission extrêmement européenne, car nous sommes pas loin du Jura, nous sommes au sud de l'Alsace, nous traversons le Rhin, qui n'est pas qu'une frontière loin de là, mais qui au contraire réunit les femmes et les hommes. Donc Bâle est de l'autre côté, Fribourg aussi en Brisgau, et donc on va parler d'expérience européenne. Et bien sûr, il y aura aussi Jean-Marie Pelt que vous connaissez. Et on vous retrouve pour les informations de...
Moi, je reviendrai à 15h alors.
Voilà, mais vous allez écouter tout ça. Hein.
Ah oui, oui, bien évidemment, oui. Comme d'habitude.
Au revoir, Michel.
À plus tard.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, c'est au-delà de l'amour, donc vous l'avez compris, avec nos amis ludoviciennes et ludoviciens, ils sont là à Saint-Louis, bonjour à tous. On s'intéresse à l'environnement déjà depuis de nombreuses années, on le sait, en Alsace, qui est une terre qui a toujours été un petit peu plus en avance que les autres en matière d'écologie. On en y reviendra avec Jean-Marie Pelt. Je tiens à remercier tout de suite à la technique toute l'équipe de France Bleu Alsace avec Frédéric Mouret, Frédéric Traverseau, Arnaud Bourg, Paul Pruvot avec nous. Merci parce qu'ils ont vraiment abattu un sacré boulot. Jean-Baptiste Audibert est notre assistant. Merci à Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Et je n'oublierai pas non plus Jean-Christophe Pinaza. Allez, une petite humeur, parce que si nous sommes à Saint-Louis, c'est le thème de ce salon du livre cette année, c'est comment va notre planète, comment va la Terre. Donc émission spéciale en direct de la foire du livre de Saint-Louis. Nous sommes réunis pour faire le point sur l'état de santé de la planète avec ses bouffées de gaz à effet de serre, ses poussées de fièvre climatique, ses écosystèmes un peu dépressifs, sa biodiversité chancelante, avec d'un côté des milliers d'espèces en voie de disparition et de l'autre une espèce à la croissance galopante, c'est-à-dire la nôtre, l'espèce humaine. Et quoi qu'on en dise, et sauf erreur de manipulation dans une centrale nucléaire que l'on ne souhaite pas, dans un laboratoire médical ou dans un stock d'armes de destruction massive, l'espèce humaine a encore de beaux jours devant elle. Alors, si je vous disais que notre point faible à l'espèce humaine, c'est la mémoire, Jean-Marie. Oui, qu'elle perd la mémoire, alors rien à voir avec Alzheimer. Cette mémoire qui flanche, c'est celle de nos ancêtres qui cultivaient le verbe bien avant la pomme de terre. Donc diversité linguistique et biodiversité, même combat. Après les forêts tropicales, les espèces végétales et animales, c'est la mémoire des langues qui disparaît doucement. Les écrivains le savent bien, les mots, il faut les cultiver car ils n'existent que si l'on s'en sert. Et d'après l'UNESCO, faute de peuple pour les parler, des milliers de langues sont menacées d'extinction partout sur la planète. Or, n'oublions pas qu'à l'origine, l'homme est une espèce de moulin à paroles, au vocabulaire relativement limité. Il va dire homme, femme, petit, grand, chaud, froid, moi vouloir toi, la terre, l'eau. Maintenant, on dit aussi tout à fait, c'est-à-dire régulièrement. On dit aussi c'est clair, ça marche très bien, mais oui. Et alors, ce qui est, vous allez me dire que c'est largement suffisant pour être vedette d'une émission de télé-réalité. Bon. Mais on ne va pas chercher plus loin, le vocabulaire commun à toutes les langues ne dépasse pas un millier de mots. Et le reste, c'est l'affaire des siècles, des peuples, du terroir, du climat, de l'histoire. Et ici à Saint-Louis, bien on le sait bien, amis de la région des trois frontières, les mots des voisins suisses et allemands, ça vous enrichit la vie. La diversité des langues, c'est comme les odeurs, les goûts, les couleurs, la différence de l'autre, c'est quand même une chance. Le problème, c'est qu'en langage économique, rentabilité ne rime pas à tous les coups avec diversité. Le monde économique, moins il y a de langues, mieux il se porte, tant pis pour la poésie. Le monde agricole, je dirais que c'est à peu près pareil, puisque vous avez 32 000 espèces comestibles, on n'utilise que 4. On utilise le riz, le soja, le maïs et le blé. Ça représente 60% aujourd'hui de la production. L'homme moderne, vous savez aujourd'hui, grâce à Internet, c'est tout, de la fibrinolose qui est pratiquée aux urgences de l'hôpital de Chicago, mais il a oublié le nom de cette jolie fleur qui pousse dans son jardin. Alors dites-moi docteur, est-ce que c'est grave ? Et donc, nos invités, vous les connaissez, vous ne les connaissez pas, pardonnez-moi, je fais les présentations tout de suite. Jean-Marie Pelt, voilà, je pensais à lui, évidemment, vous le connaissez, il est avec nous, il est venu en voisin de Saint-Lorraine. Cher Jean-Marie, c'est vrai, bon, là, c'est pas loin pour vous, vous êtes en Alsace, mais c'est pas loin du tout, là.
C'est notre terroir, Et c'est surtout une région où il y a trois frontières, comme chez moi. Oui. Je me retrouve à peu près dans la même configuration.
C'est pas exactement les mêmes quand même chez vous, en Lorraine. Hein. Il y a...
Pardon ?
C'est pas exactement les mêmes.
Chez nous, c'est Luxembourg, l'Allemagne et la France. Ici, c'est la France, l'Allemagne et la Suisse. Oui. Et puis, alors, il y a une troisième zone où il y a trois frontières, c'est l'Italie, la Suisse et la France. Mais alors là, c'est un peu plus compliqué. Parce que le point frontière, c'est le sommet du Mont Blanc.
Ah oui.
Donc la communication est un peu plus difficile que lorsqu'il suffit de traverser le Rhin ou la Moselle.
Oui, on a un peu plus de mal à respirer quand
un
même.
Un peu plus,
mais, voilà. Bien sûr. Mais vous avez raison, c'est aussi une zone qui est tout à fait frontière. On va parler de cette zone frontière aussi avec Frédéric Duvinage, parce que vous êtes coordinateur de l'agglomération trinationale de Bâle. Ça s'appelle l'ATB, ça a vu naissance il y a une dizaine d'années. Donc on le rappelle, donc on a ce Rhin là qui est vraiment juste à côté, hein, une portée d'arbalète juste derrière. Et donc quel est le but? On sent bien qu'ici on parle véritablement Europe, quoi, vraiment depuis le berceau. Donc l'idée c'est quoi? C'est de réunir alors à la fois, je dirais, Saint-Louis, une partie de l'Alsace, une partie du Bade-Wurtemberg et puis de Bâle.
Alors l'idée c'est que les trois pays, en fait, le sud de l'Alsace, le sud du pays de Bade et puis la Suisse du Nord-Ouest, en fait, cette agglomération trinationale qui dépasse les frontières, mmh. et les gens vont d'un côté et de l'autre, commercent d'un côté, vont travailler de l'autre côté, en fait que cette agglomération croît de façon optimale au-delà des frontières.
Donc on essaie d'amener le concept de ville durable, enfin bon, avec ce mot qui parfois dit pas grand-chose, mais c'est un peu ça l'idée ou...
L'idée aussi, enfin,
oui. L'agglomération durable.
Agglomération durable, oui. Une ville où il fait bon vivre, on peut bien travailler, et une ville aussi où les gens discutent ensemble au-delà des cultures.
Alors il y a quand même une grosse partie qui est quand même Bâle. On va dire que cette partie du nord-ouest de la Suisse, c'est 67%. Pour le Bade-Wurtemberg, l'Allemagne, c'est à peu près un quart, 25%, et puis 8-10% pour l'Alsace.
Oui, c'est à peu près ça. Voilà.
D'accord. Et donc là, vous avez des projets, j'imagine, en commun, on va en parler après. Mais
donc depuis 5 ans, nous avons réalisé 10 projets, 10 études de faisabilité. On arrive maintenant à un point où on pourrait presque concrétualiser les projets avec des constructions. Par exemple, un tramway transfrontalier.
Ah oui, d'accord. Et là, tout le monde va être concerné. Donc on va voir ça avec vous, Frédéric Duvinage. Et puis je n'oublierai pas Jürgen Hartwig, qui est avec nous, qui est architecte, qui est urbaniste et qui est aussi directeur de Fribourg Futur. Alors, on connaît cette ville, peut-être, on ne la connaît pas forcément bien de Fribourg. Nous sommes non loin de la Forêt-Noire, à 70 km de Colmar. Ici, à Saint-Louis, on est aussi à peu près à 70 km. Et c'est un exemple qui est quand même assez étonnant, Jürgen Hartwig, parce que ça fait partie de ces villes, de ces écolo-villes, entre guillemets. Vous avez été tout à fait précurseur. Il y avait un mouvement, il faut dire, écologiste fort dans votre région depuis une trentaine d'années. Et on y arrive, mais on y arrive aussi avec la population. On ne le fait pas contre la population. Et aujourd'hui, on s'est emparé de ce concept de développement durable à Fribourg.
Non, c'est vrai, c'est surtout une approche participative, une approche des citoyens. C'est pas uniquement que notre maire dise, voilà, c'est ça qu'il faut, c'est peut-être la mairie qui va tout décider, qui va tout accélérer. C'est surtout le contraire. Ça vient du bas, ça vient des citoyens qui réclament, qui disent, voilà, mairie, tu dois donner certaines réglementations, que nous, on sait quel chemin on doit suivre, et tout le monde.
Oui, et on rappelle que quand même 80% de la population est citadine, donc adopter des modes de vie plus écologiques, ça devient tout à fait capital quand même dans cette Union européenne. Voilà, écoutez, nous allons effectivement parler de tout cela. Gamberger, Jean-Marie Peul, votre dernier ouvrage est aussi, s'appelle « Après nous, le déluge », mais point d'interrogation, et ce point d'interrogation est important, nous en parlons dans CO2 Mon Amour, juste après, oh ben, un bon petit chanteur, là, il débute là presque, c'est Bruce Springsteen, c'est ça? Eh ben oui, c'est lui, allez, c'est parti.
Whoa!
de la musique et des livres. Vous êtes bien en direct de la foire de Saint-Louis. Nous sommes dans le Haut-Rhin, nous sommes en Alsace avec cette foire importante, avec Jean-Marie Pelt qui est avec nous après Bruce Springsteen. C'était pas mal du tout ça. Oh Mary, don't you weep, pourquoi ne pleures-tu pas? On va peut-être pleurer sur la terre avec un point d'interrogation, puisque Jean-Marie, vous avez sorti avec Gilles-Éric Serralini un nouvel ouvrage qui s'appelle « Après nous, le déluge ?» point d'interrogation. Et vous écrivez assez vite dans cet ouvrage qu'il y a urgence parce que l'on touche au rivage de l'irréversible. Alors l'irréversible, qu'est-ce que c'est? On sait qu'on est bien sensibilisé aujourd'hui par le réchauffement climatique et donc le changement climatique avec l'effet de serre. Donc ça en fait partie. Qu'est-ce qu'il y a? Effectivement, il y a le climat, il y a la biologie, la biodiversité qui ne vont pas très fort. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers cet ouvrage?
Ce qui est irréversible, ce sont les changements très profonds en matière d'écologie, en particulier en effet le réchauffement climatique, parce que quoi qu'on fasse, et même si on réduit énormément les émissions de gaz à effet de serre, nous ne retrouverons pas, disons, le climat des années 50. Nos enfants auront plus chaud que nous.
C'est-à-dire qu'on a signé à peu près pour 2 degrés, c'est ce que disent les scientifiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est 2 degrés déjà d'augmentation.
C'est une hypothèse plutôt optimiste, d'ailleurs, parce que ça pourrait être pire et on aura donc des canicules à répétition à l'horizon 2050. Ce qui est irréversible aussi, c'est la pollution autour de Tchernobyl qui générera des cancers pendant des décennies et des décennies, parce que la radioactivité ne s'éteint que sur des temps infiniment longs. Mm-hmm. Alors, ce qui est irréversible aussi, c'est les espèces que nous perdons. Nous ne savons pas fabriquer de nouvelles espèces, donc il y a ici des pertes sèches. Et l'on dit que l'homme est responsable d'une période d'extinction massive des espèces. Il y en a eu 5 dans l'histoire de la vie, dû généralement à des phénomènes de volcanisme ou aussi à des chutes de météorites qui, par exemple, ont emporté les dinosaures. Eh bien, aujourd'hui, ça n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est nous, par notre activité très destructrice sur la planète, qui entraînons une disparition des espèces entre 100 et 1000 fois plus rapide que ce qui se passerait si nous n'étions plus là. Pour les seuls vertébrés, le dernier siècle a emporté plus de 250 espèces, alors que normalement, s'il n'y a pas d'homme sur Terre, il y a une espèce de vertébré qui disparaît par siècle. Donc ça a été 250 fois plus vite. Nous accélérons l'érosion de la biodiversité.
Parce qu'il y a toujours eu, on le sait, les disparitions d'espèces.
Tout à fait.
C'est-à-dire que depuis l'origine, depuis que la Terre s'est mise à fonctionner, on va dire qu'il reste quoi? Peut-être 1% simplement des espèces. Donc ça, c'est un cycle qui a toujours été naturel, avec le phénomène de que l'on connaît bien dans le darwinisme aussi, de sélection, auquel vous rajoutez, vous aussi, la coopération et la solidarité. Hein,
Absolument.
Mais là la différence, c'est le rythme dans lequel...
C'est la rapidité, oui, du phénomène qui s'est emballé. Mais d'ailleurs, notre société est une société emballée à tout point de vue. Elle évolue à une rapidité vertigineuse en tout, par le progrès technologique, les modifications des modes de vie, etc. Et il y a un coût à payer, qui est le coût écologique. Et ce coût devient maintenant très élevé.
Il n'a jamais été pris en charge, vraiment en considération, on va dire.
Pas vraiment. Nous sommes à une période de prise de conscience. Les opinions publiques sont devenues très sensibles à ces questions, mais il n'est pas encore pris en charge comme une priorité absolue par les pouvoirs publics qui sont un peu décalés par rapport à la sensibilité de l'opinion. Et nous avons voulu lancer un cri d'alarme.
Alors, j'ai commencé exprès par le climat, parce que là les choses semblent acquises, mais même s'il y a encore quelques remises en cause. 3000 donc, climatologues se sont réunis, on le sait, ce sont des scientifiques extrêmement pointus dans le monde entier qui ont échangé leurs différentes études. Et donc là, on est d'accord sur un constat, c'est-à-dire que ça va se réchauffer de 2 degrés minimum à 6 degrés, on va dire, en fonction de nos comportements futurs. Bien, donc là, il y a une unanimité qui est arrivée. Ce n'est pas le cas encore sur la biodiversité, c'est-à-dire que là il n'y a pas un consensus, je dirais, scientifique.
Ce n'est pas du tout le cas en ce qui concerne les biologistes. Les biologistes ne font pas, disons, une corporation scientifique qui serait massivement mobilisée pour éviter les catastrophes écologiques. Une part de plus en plus grande de biologistes sont mobilisés sur la biologie moléculaire. Ce sont les gens du gène, mais parfois on en est arrivé à ce qu'on pourrait appeler le tout-gène par comparaison au tout nucléaire. Et donc, la prise en compte de la globalité, c'est-à-dire des espèces innombrables qui peuplent la planète, ça n'est plus tout à fait le problème de ses collègues.
Ça vous dit qu'on a perdu le sens de la globalité, qu'on est passé, on va dire, du savant au chercheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus possible pour un chercheur de ne pas découper un objet de plus en plus petit, par exemple.
Oui, c'est ce qu'on appelle le réductionnisme, c'est-à-dire que vous avez...
Et qui est aussi très nécessaire pour comprendre le vivant.
C'est nécessaire, je veux dire, on ne va pas jeter la pierre à nos collègues, ce n'est pas du tout ça. Mais pour avancer, ils sont obligés de devenir, à la limite, le spécialiste d'une enzyme et d'un gène, donc à devenir extrêmement spécialisé. Peut-être n'auront-ils plus la sensibilité nécessaire pour positionner ce gène dans l'ADN et pour voir comment l'ADN globalement peut interagir avec le gène. Et dans interagir, il y a interaction. Et la science des interactions, c'est l'écologie, où tout est en interaction avec tout. Mmh. Et cette vision n'est pas la vision de la biologie réductionniste actuelle. C'est pourquoi la biologie n'est pas très présente dans l'effort écologique. Alors, c'est surtout vrai pour ce qui touche à la chimie et aux impacts des pollutions sur la santé, mais aussi d'innombrables molécules dont on sait ou qu'on suspecte être cancérogènes, qui sont sans doute responsables, en partie en tout cas, de la montée des cancers qui sont malheureusement de plus en plus nombreux et de plus en plus meurtriers. Et nous estimons avec Gilles-Éric Séralini qu'il faut absolument mobiliser la communauté des biologistes sur ce point précis. Est-ce qu'on arrivera, oui ou non, à faire disparaître de notre environnement des molécules qui vont nous rendre malades et qui vont rendre malades les bébés qui naissent aujourd'hui, parce que les malheureux, ils naissent avec déjà ces molécules dans leur graisse et dans leur sang, car leur maman les ont transmises par le cordon.
Alors, puisque vous évoquez effectivement le cancer, on ne peut pas avoir, on va dire, une dose, une réponse, il n'y a pas forcément une causalité par rapport à, aux différentes maladies. On sent bien que c'est quelque chose qui est combiné. Comment ça se passe en médecine? Parce qu'habituellement, donc on a une maladie, un symptôme, une maladie, et puis après on va soigner les gens avec un médicament. Avec ces nouvelles, on va dire, molécules, c'est peut-être plus subtil que ça encore aujourd'hui ou...
Ah ben oui, l'exemple typique du passé proche, du passé de mon enfance, c'est un microbe, le mycobactérium, c'est une maladie, la tuberculose, et puis c'est un médicament qui est la streptomycine. C'est comme ça que ça marchait. Et avec ce système-là et grâce aux antibiotiques, on a maîtrisé en gros les maladies bactériennes. Par contre, on a maintenant inondé le monde de molécules chimiques qui n'ont pas été testées quant à leurs impacts sur la santé et qui provoquent des pathologies que l'on est seulement en train de découvrir, qui ne sont pas dues à une molécule mais à un panel de molécules, qui ne frappe pas forcément un organe, mais qui frappe l'organisme tout entier, qui sont difficiles à décrire, à définir et à rapporter à leur cause, et encore bien plus difficiles à soigner, puisqu'on n'a pas les moyens, évidemment, d'éliminer les molécules toxiques et dangereuses quand elles sont dans nos organismes. Donc ici, c'est la prévention qui s'impose d'une manière absolue. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de la médecine, qui est la médecine devant répondre aux pathologies liées à une utilisation probablement imprudente de la chimie de synthèse.
On est passé d'une ère microbienne donc à une ère plutôt chimique.
Tout à fait. C'est une nouvelle époque dans l'histoire de la médecine qui commence.
Un rappel que vous faisiez, c'est que le DDT qui a été interdit après la guerre, eh bien ce DDT, on le retrouve... Joli, voilà. On le retrouve trois générations dans le lait des femmes après.
Oui, tout à fait. Ouais. Et dans le sang de nos ministres de l'environnement des 25 pays de l'Union européenne qu'on a analysé, que le WWF a analysé, on trouve sur 101 molécules qu'on a recherchées, entre 30 et 60 molécules, dont naturellement du DDT, qui est encore toujours présent, parce que très souvent, ces molécules ne sont pas biodégradables. Donc elles s'accumulent partout, elles s'accumulent dans l'eau, dans l'eau des nappes souterraines, les pesticides s'accumulent de cette façon. On arrose par exemple une pomme 30 fois avant de la mettre sur le marché. 30 fois, c'est vraiment beaucoup, c'est beaucoup trop. Il faudra qu'on aille vers une culture et une agriculture qui soit différente et où la chimie n'ait plus l'énorme impact qu'elle a et avec des molécules sûres. Donc l'idée, c'est de sécuriser la chimie.
D'où le programme REACH, qui a d'ailleurs effectivement été une grande bataille de lobby hein, européen pour essayer quand même de le diminuer donc au maximum, et qui est aussi une avancée. Hein. Il faut quand même prendre aussi le bon côté des choses. Quoi.
C'est un des très grands programmes de l'Union européenne. On en parle très peu. C'est très peu médiatisé, tout ça.
Enfin, ça l'a été au moment du débat, quand même. Hein, pas mal. Hein, ça
Pardon
ça l'a été quand même il y a quelques semaines, au moment du débat.
Au moment du débat, ouais, ça l'a été, oui, absolument. Moins en amont. Oui. Ça l'a été à l'arrivée, bien qu'on n'ait pas encore arrivé au bout de la discussion. Mais alors, l'objectif, c'est évidemment cela. C'est de mettre en place une stratégie de test des molécules pas aussi sévère et sérieux qu'on le fait pour les médicaments, qu'on teste pendant 10-15 ans. Là, on fera les tests plus modestes. Ça s'appelle l'écotoxicologie. Ces tests permettront de dire, voilà, une molécule qui provoque des cancers, on ne la met pas sur les marchés. On ne l'utilisera pas. Et si on a repéré de telles molécules, on va les remplacer par des molécules qui s'avéreront sans danger.
Alors, Jean-Marie, vous dites bien que la science n'est ni bonne ni mauvaise, simplement vous voulez la juger l'arbre à ses fruits. Il est évident qu'il y a eu des progrès absolument incroyables et dont on bénéficie les uns les autres grâce à la science aujourd'hui, mais est-ce qu'une expertise indépendante est possible dans ces domaines que vous traitez dans ce livre ?
Alors, la grande difficulté, c'est que beaucoup de scientifiques, pratiquement tous aujourd'hui, sont obligés de faire financer leurs recherches par le monde économique parce que les fonds publics ne suffisent pas à leur permettre de travailler. Donc ils passent des contrats avec le monde économique, ce qui en soi n'est pas immoral du tout. Mais dans certains domaines sensibles, comme les OGM par exemple, comme les problèmes de santé, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce que ce chercheur va évidemment ne pas avoir tendance à dire, eh bien, telle substance, elle n'est quand même pas très sûre si c'est son commanditaire qui la fabrique. On a assisté tout récemment à une polémique sur deux pesticides qui étaient suspectés de tuer nos abeilles, le gaucho et le régent. Il y a eu des discussions, on n'en pu finir. J'ai été moi-même contacté par un groupe de scientifiques qui voulaient absolument que je dise que le gaucho et le régent sont sans danger, mais je n'avais aucune raison de le dire, parce que je n'avais aucune information qui m'aurait permis de faire une telle assertion. Donc on demandera aux scientifiques désormais, je l'espère, qu'ils soient aussi capables de faire des expertises indépendantes et financées par les pouvoirs publics. Nous n'arriverons jamais à moraliser la science et à la rendre éthique tant qu'il n'y aura pas des fonds destinés à des expertises indépendantes.
Et donc on reviendra aussi à la fin de cette émission sur le serment éthique éventuellement que vous préconisez dans cet ouvrage « Après nous, le déluge, point d'interrogation » qui fait écho donc au thème de Saint-Louis où nous sommes aujourd'hui dans cette foire du livre qui est « Comment va la planète ?». Alors ce que je vous propose c'est d'écouter Juliette parce que vous savez que sur des boîtes de médicaments, il y a un mode d'emploi et le mode d'emploi, voilà ce que ça donne, version Juliette.
Bonjour. Si vous désirez des informations sur nos produits, tapez dièse. Si vous désirez régler votre facture en euros, tapez bémol. Si vous désirez entrer en relation avec un de nos techniciens, tapez 2793567243526968279.
Pour faire danser la danseuse, pour faire percer la perceuse, pour cultiver les salsifis, pour accrocher un crucifix, pour démarrer l'automobile ou un bouquin de Comte Sponville, c'est comme accomplir un exploit. Je ne sais pas lire les modes d'emploi. Pour jouer du sarusophone ou pour répondre au téléphone, pour poser un vésicatoire et pour mettre un suppositoire, pour allumer l'ordinateur et pour passer l'aspirateur, un rien devient un vrai supplice. Je ne sais pas lire les notices.
C'est comme accomplir un exploit.
Je ne sais pas lire les modes d'emploi.
Faut rien devient un vrai supplice.
Je ne sais pas lire les notices.
Retour au SAV.
Pour faire une recette de cuisine, pour gober de la chlorpromazine, pour doser le liquide vaisselle, pour se parfumer les aisselles, pour déballer une vache qui rit, un CD de François Valéry. C'est fou comme le monde se complique quand on lit pas les fiches techniques. Pour la linéa du contrat, pour pratiquer le Kama Sutra, pour tenter d'ouvrir un blister, pour élucider un mystère, pour balancer une OPA, pour monter un meuble Ikea. On ajoute dans l'irrationnel quand on sait pas lire les manuels.
Enfoncer l'opercule dans le vice sans fin, faire glisser le nonnule quand la boule revient. C'est quand l'axe se permute à cause le trou glisse, si la panne persécute à mollir nos sévices.
Pour appuyer sur le bouton et pour rentrer mes blancs moutons, pour faire une bombe atomique, planter du maïs transgénique, se faire porter pâle ou porter plainte, et pour sortir du labyrinthe, quand on n'y comprend rien c'est dur, je ne sais pas lire la procédure. Pour se muscler les seins, les fesses, se rendre à pied ou à confesse, pour s'adonner à la peinture, au stupro, crack, à la torture, pour déguster des ortolans, pour faire voler un cerf-volant. Chaque fois je m'arrache les tifs quand il faut lire le descriptif.
Bien suivre la novice avant de la montée, faire débrancher le fils et le laisser crever.
Chaque
si
fois
la connerie sonne, c'est pour que le Gaspard, quand la déclenche donne, c'est car il est trop tard.
Pour survivre coûte que coûte, sans avoir lu le code de la route, pour ruiner les petits porteurs, embobiner les électeurs, pour aller se faire voir chez les Grecs, souscrire une convention obsèque, il me semblait pour savoir vivre qu'on n'a pas besoin de marche à suivre. Pour comparaître au tribunal, pour reconnaître le bien du mal, pour partir en Ouzbékistan ou pour partir les pieds devant, toute la ville faut s'y faire pour faire l'amour, pour faire la guerre. Et même pour lire un mode d'emploi, il faut bien lire le mode d'emploi. Mauvaise nouvelle, mes bons amis, si ce petit refrain vous ennuie. Car pour terminer ma chanson, je n'ai pas lu les instructions.
Disposez 7 et 8 quand 17 encore mou. Appuyez tout de suite pour joindre les deux bouts. Si 16 et 13 et 3, c'est parce qu'il est 9. Quand l'aiguille est à 3, on peut retirer.
À vos frais, bien entendu.
Voilà, à vos frais, bien entendu. Merci Juliette, c'est toujours un petit bonheur d'écouter cette jeune femme. Après nous, le déluge, point d'interrogation, donc le titre de Jean-Marie Pelt et de Gilles-Éric Séralini. Heureusement qu'il y a le point d'interrogation, parce que les nouvelles ne sont pas forcément joyeuses, faut le dire. On a une société qui savons maintenant beaucoup de choses, mais on ne croit pas ce que l'on sait. Voilà, c'est un petit peu ça aussi qui ressort de cet ouvrage. Malgré tout, on peut faire des choses. Et lorsque l'on regarde aussi quand même d'un point de vue européen ce qui se passe, il y a quand même quelques exemples tout à fait encourageants, et c'est le cas de Fribourg en Brisgau, donc qui se trouve, je vous le disais, non loin de la Forêt Noire. On est à 70 km de Colmar, pas loin de Mulhouse non plus, donc pas loin là où nous sommes aujourd'hui de Saint-Louis. Agglomération de 210 000 habitants, une ville de 130 000 habitants, et donc Fribourg en Brisgau fait figure de modèle européen en matière de développement durable. Et vous allez voir que la vitrine est quand même extrêmement riche. Nous en parlons donc avec Jürgen Hartwig, qui est aussi notre invité, qui est architecte, qui est urbaniste. Je le disais, il y avait un mouvement écologiste qui était donc assez fort. On va commencer quand même par les transports en commun, parce que là, on sait qu'il y a à la fois le problème de l'effet de serre d'un côté et des énergies fossiles de l'autre. Et donc, transports en commun qui sont fortement encouragés par votre ville. J'ai vu qu'en 20 ans, Fribourg est parvenu à faire passer de 60% à 40% le recours à la voiture pour les déplacements. Ça s'est passé sans drame. On a l'impression que si on fait ça, ça va être une émeute absolument totale. Et c'est donc la ville entière qui a fait ce choix pour remettre la voiture à sa place. Alors comment on a fait? Parce que les transports en commun, c'est 30% des déplacements, et 30% des autres déplacements, ça se fait à vélo. Moi, j'ai eu la chance de venir déjà une fois ou deux chez vous. Je vais pas dire qu'on risque de se faire écraser par un vélo, hein, c'est pas quand même ça. Mais donc, il y a des vélos absolument partout, ça circule drôlement bien. Mais comment on a réussi à faire ça, et qu'est-ce que l'on fait en matière de transport en commun à Fribourg? Dites-nous tout.
Oui, c'est intéressant. Fribourg, c'est traditionnellement pas, c'est pas Amsterdam. Hein. C'est pas, nous ne sommes pas aux Pays-Bas, nous sommes en Allemagne. Et Fribourg, c'était à l'époque pas une ville des cyclistes. C'est devenu une ville des cyclistes par une volonté politique et aussi par l'engagement des citoyens, aussi des étudiants. Il faut dire, l'université se trouve au centre-ville. Il n'y a pas beaucoup de place pour stationner des voitures.
Oui.
Et on peut compter les nombres des vélos. Une fois on a fait ça à Fribourg, vous avez à peu près, pas en hiver, mais en été, à peu près 35 000 vélos stationnés autour du centre-ville.
Non, il y a une vérité.
Autour de la gare, à peu près quelques millièmes, 4-5 000 des vélos. Oui, mais pourquoi ils ont arrivé? Je me souviens, à l'époque, il y avait très peu de vélos. Et premièrement, ils ont fait des pistes cyclables, ça c'était un premier travail, mais en même temps, arrêté aussi, ils ont diminué les stations pour les voitures au centre-ville.
La place des voitures.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez des parkings qui sont en périphérie, mais sinon les places de parking en ville sont effectivement extrêmement chères. Hein. Je crois que ça va être de 4 à 5 euros, donc ça va quand même assez vite.
Oui, c'est en même temps qu'ils ont... Ils ont fait les pistes cyclables, en même temps ils ont augmenté les prix pour mettre les parcs-mètres.
Ouais, oui.
Ça c'était tous des actions parallèles, c'est très important, on ne peut pas faire des pistes cyclables et tout laisser pour les gens qui sont des voitures individuelles. Et là il faut agir tous les deux côtés.
Oui, alors donc aujourd'hui 400 km de pistes cyclables, hein, donc c'est un sacré maillage aujourd'hui à Fribourg. Il y a aussi les tramways, ça les tramways c'est aussi extrêmement important. J'ai vu qu'on prend le tramway en moyenne 250 fois par an, c'est-à-dire que les trois quarts du trafic urbain, c'est quand même dans les tramways que ça se passe.
Les tramways, heureusement, Fribourg a toujours gardé les tramways et ils ont les dernières 5-6 ans, ils ont fait encore des nouvelles lignes pour arriver dans les nouveaux quartiers. Ça, c'était presque dans l'urbanisme, c'était un premier projet de faire une nouvelle ligne des trams, que dès que les nouveaux citoyens déménagent dans un nouveau quartier, ils savent, voilà, j'ai une tramway, je n'ai pas besoin de les voitures.
Et donc 70% des personnes qui sont actives à Fribourg, ils ont un arrêt à moins de 500 mètres de leur domicile. Donc on fait au maximum, on va dire, 500 mètres à pied et on tombe sur le tramway. Quoi.
Oui, pourquoi? Parce qu'on est tous paresseux. On sait bien les prochains arrêts des trams, c'est trop très loin. C'est
on
plus
prend
loin
la
que 500 mètres. Là, on prend les voitures. Ça, c'est clair. Il faut une densité.
Oui.
Comme ça, on a besoin d'une certaine densité de la ville pour faire tout ça, parce que les transports en commun, il est lié à une certaine densité de la ville.
Alors j'ai vu qu'il y a une politique tarifaire qui était assez audacieuse, 395 euros par an, bien sûr, il faut les sortir, mais c'est pour toute la famille, mais même le chien compris, je crois même qu'on peut, on peut le passer éventuellement à des amis, pour pouvoir circuler en tramway toute l'année, et on va 50 km autour de Fribourg, on peut aller jusqu'en Forêt-Noire.
Voilà, ça c'était vraiment très très important à l'époque. Bien sûr, à l'époque, il y avait un ticket pour les trains, un ticket pour les bus, un ticket pour les trams. Et c'était en 82 ou 84. Là, ils ont dit, voilà, un seul ticket pour tous les trams, tous les bus, tous les trains, sauf les TGV allemands.
Oui. Alors,
et ça, ça permet que c'est très facile, un seul ticket. Et le dimanche, vous pouvez amener toutes vos familles, c'est un seul ticket. Ça veut dire, le dimanche, on peut sortir dans la Forêt-Noire, avec, comme vous avez dit, toute la famille.
Alors, donc, on sent bien qu'il y a une véritable volonté, une véritable réflexion qui se passe dans cette ville. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jean-Marie Pell, parce que vous voyez assez souvent, vous aussi, donc, des exemples. Fribourg n'est pas la seule ville européenne à avoir vraiment ce genre d'attitude, mais elles sont peu nombreuses, et c'est intéressant de voir que ça donne de l'espoir, tout ça.
Oui, tout à fait. Je crois que nous, Français, en retard. Il faut confesser ce retard. Je sais que Karlsruhe fait aussi un gros effort dans le même sens que Fribourg, mais Fribourg est tout à fait exemplaire. Mais il y a un point très important, c'est qu'en Allemagne, vous n'avez pas l'habitude, comme nous en France, de mettre des maisons nouvelles n'importe où, de faire des tout petits lotissements dispersés dans tous les villages.
Nous, on a beaucoup de mitage.
Et de miter le paysage de telle sorte qu'il est extrêmement difficile ensuite d'organiser des transports en commun. Vous avez densifié l'habitat. Vos villes ont des contours qui sont précis, ça ne s'éparpille pas un peu dans tous les sens, et je crois que c'est nécessaire quand on veut faire des systèmes de transport en commun efficaces et performants, de ne pas disperser l'habitat à l'infini, comme nous le faisons chez nous, ce qui rend la voiture indispensable. Mmh. Parce que quand vous êtes dans un village à 20 km de la ville, il n'y a aucun transport en commun, et donc la voiture devient absolument nécessaire. Donc je pense qu'il faut que nous réfléchissions, nous Français, à nous inspirer de votre exemple.
On parlera aussi de la construction des bâtiments et des déchets à Fribourg. Je me tourne vers vous, Frédéric Duvinage, puisque je rappelle que vous êtes le coordinateur de l'agglomération trinationale de Bâle, et donc nous sommes dans cette agglomération aujourd'hui, donc à la foire de Saint-Louis. Donc là aussi, j'imagine qu'il y a quand même, culturellement, c'est intéressant qu'il y ait quand même ce brassage entre la France, entre l'Allemagne, entre la Suisse, et là aussi, comment on fait pour faire cohabiter tout ce petit monde et avoir des projets communs pour arriver à une ville durable, une agglomération durable, devrais-je dire. Je le rappelle, donc 750 000 habitants au total.
Alors il faut beaucoup discuter et il faut avoir beaucoup de curiosité et aussi de patience. On est dans l'interculturel, on est dans l'intergénérationnel. Il ne faut pas oublier qu'on a eu deux guerres mondiales. Donc ce territoire a énormément souffert de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale. Et moi je pense, en tant qu'urbaniste, on est en train de voir qu'on est en train de dépasser les blessures qui étaient liées à ces deux guerres. Par exemple, pour le tramway, il existait avant un tramway sur une ingle, il existait un tramway qui passait la frontière, et avec les guerres, tout a été complètement arrêté et les frontières sont devenues beaucoup plus dures, beaucoup plus fermées. Et maintenant, 60 ans après la Deuxième Guerre mondiale, on est en train de faire ce que nos anciens avaient fait. Donc on recommence à travailler ensemble beaucoup plus intensément.
Alors vous travaillez sur l'habitat, sur les transports, l'architecture. On était dans les tramways et dans les transports en commun à Fribourg. Restons-y, parce qu'il y a donc cette ligne de tramway transfrontalière avec la France et l'Allemagne. Et quelle est la particularité? D'abord, elle est en train elle va partir bientôt, cette ligne transfrontalière. Elle est en train de se faire. Où est-ce qu'on en est et la particularité, effectivement.
Donc, l'ATB a fait un travail sur l'étude de faisabilité de cette
ligne. Alors, l'ATB, je rappelle, c'est agglomération trinationale de Bâle. Voilà,
oui. Donc, un travail qui a montré que les lignes de tramway transfrontalières qui partiraient de Bâle, en fait, qui continueraient de Bâle pour aller vers la gare de Saint-Louis, sont rentables. Si on les construit, ces lignes seraient rentables. Et il y a quelque chose de très intéressant. Pour la première fois, la Suisse accepterait, dans le cadre d'un programme d'agglomération, de financer 50% du coût des infrastructures sur territoire français, et c'est la même chose aussi pour une ligne de tramway vers une ville allemande, Val am Rhein, donc elle accepterait de financer à 50%.
Même si le tramway ne passe pas forcément à Bâle, hein, c'est ça l'idée.
Alors le tramway passe à Bâle puisque c'est la continuation de la ligne. D'accord. Qui part de Bâle, mais ça serait sur sol français et sur sol allemand.
D'une manière générale, je dirais que votre atout, ce sont, enfin, en Europe, les atouts que nous avons, ce sont les villes. Je le rappelle, 70 à 80% de la population européenne aujourd'hui est en ville, ça va être le cas aussi mondialement. Donc comment on fait pour mettre en avant ce vivre ensemble avec cette particularité européenne? Les villes américaines ne sont pas comme, du tout comme les villes européennes. Quelle est notre particularité?
Alors en fait, Thomas Sievert, qui est un urbaniste très connu en Allemagne, explique que pour lui, les villes européennes, ce sont le trésor de l'Europe. Ça veut dire, dans un monde où les villes sont devenues des métropoles, des mégalopoles sans forme, sans limite, sans qualité urbaine, où on peut retrouver les mêmes bâtiments d'un côté de l'Atlantique à l'autre côté de l'Atlantique, la diversité des villes européennes, c'est vraiment une forte chance qu'on doit maintenir et pour la qualité de la vie.
Alors ça, aujourd'hui, maintenant, on a quand même des points forts lorsque l'on voit la fondation de la capitale baloise. Donc on va remonter à peu près au XVIIIe siècle. C'est quand même une ville c'est une ville d'humanisme aussi. C'est une ville où on a eu une autonomie des finances, une autonomie des décisions. Ça, c'est important. Nous, on est encore extrêmement centralisateurs. Donc comment on fait pour mélanger ces trois cultures?
Alors comment on fait? C'est qu'on essaie de comprendre déjà comment le voisin pense, on essaie de se mettre à sa place. Si on n'arrive pas à se décaler par rapport à sa propre logique, on ne peut pas coopérer. Donc il faut se mettre à la place aussi du voisin pour essayer de comprendre comment il pense. Donc on est vraiment dans l'interculturel. Oui. Et aussi il faut voir qu'ici nous avons deux langues, même plus si on comprend les dialectes. Donc il faut travailler en deux langues. Et pour avoir une réussite, il faut que ces deux langues soient acceptées, soient reconnues et soient utilisées. On voit que dès qu'une langue prend le dessus sur une autre langue, la coopération diminue. Donc ce respect des différences, que ce soit au niveau de la culture ou des langues, est une obligation.
Jürgen Hartwig, la question des trois mentalités de nos pays, chacun a son approche et chacun peut apporter aux autres. Donc pour vous, comment vous pouvez effectivement les définir avec votre œil d'allemand que vous avez, par exemple pour la Suisse? Comment ça se passe?
Pour nous, c'est intéressant. Surtout, souvent, on est trois, hein, un Suisse, un Allemand, un Français.
Oui. Et
pour nous, c'est vraiment intéressant de voir les deux côtés. On est tous dans la même vallée du Rhin, on est tous dans les mêmes régions. On parle beaucoup du région, comme il a dit, la région Trirena. Et là, en Suisse, pour nous, il fait des qualités. Hein, ça, il est connu, il fait des qualités, par exemple, au niveau du bâtiment où on parle d'ingénierie, il pense peut-être longtemps, mais à la fin, il arrive, oui. Il fait quelque chose qui reste longtemps, qui a des garanties, qui est très bien choisi et où il a tout côté vu.
C'est-à-dire que les choses se font lentement, mais quand on décide, oui, après, ça y est, oui. C'est parti, c'est du solide, quoi.
Lorsque j'étais à l'université, j'avais un professeur suisse qui m'a envoyé plusieurs fois en Suisse pour dire, voilà, tu vas apprendre en Suisse, tu vas apprendre aux Pays-Bas et tu dois voyager un peu. Et comme ça, c'est intéressant. Je pense que ça, c'est notre chance. On peut apprendre tous nos toits et différentes régions. Chacun apprend de l'autre.
Votre œil sur la France, vous, Jürgen?
La France, oui, il y a
Voyez nos amis sourient tout de suite.
Pour moi, souvent, c'est un peu de la philosophie. Ça veut dire qu'on peut parler très, très bien. On aurait su vraiment trouver beaucoup, on pose beaucoup de questions.
Oui.
On cherche beaucoup de réponses, bien sûr. Souvent, pour moi, c'est souvent difficile parce que je ne vois pas à quel moment on va arriver vraiment
à agir,
réaliser.
Oui, d'accord. Non, c'est-à-dire qu'on est, mesdames et messieurs, on est dans la problématique des philosophies, vous voyez, donc c'est ça, et donc on réfléchit beaucoup, quoi, on réfléchit beaucoup. Et alors, non, mais on agit quand même aussi, sur l'Allemagne.
Non, peut-être juste avant, un exemple.
Mettez-nous une couche.
J'ai participé à une conférence, c'était à Dunkerque, nous étions là au 7e assise de l'énergie, et là, on a parlé beaucoup des capteurs, ils ont dit, c'est très difficile en France, accepter qu'il faut mettre des panneaux, il y a les architectes de France. Et là, quelqu'un dit, on va mettre des micros éoliennes à Paris.
Oui.
Et là, je dis, mais c'est pas la peine même pas de parler de ça, parce que si il n'accepte même pas des panneaux ou des capteurs solaires, pourquoi parler maintenant des micros éoliennes sur les toits de Paris?
On doit vous sembler extrêmement étrange quand même avec nos énergies renouvelables, parce qu'on en parle beaucoup et aujourd'hui c'est malheureusement dans l'épaisseur du trait. Une fois de plus, il n'y a pas de solution définitive, c'est pas on-off, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein, donc les énergies renouvelables ont leur place, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut gommer les autres énergies qui existent, loin de là. Mais lorsque l'on voit la construction de vos bâtiments, alors vous, le solaire, comment ça marche à Fribourg? Parce que c'est quand même important le solaire maintenant.
D'accord, pour nous, le solaire, bien sûr, c'est une clé, c'est une technologie clé qui peut ouvrir des portes. On ne peut pas dire, si je vous donne des chiffres après pour Fribourg, peut-être vous êtes étonné, parce que l'énergie solaire, ça ne résoudre pas tout notre problème aujourd'hui. Mais grâce à cette
énergie. Aucune énergie ne résout les problèmes, de toute façon. Ça va être un mix, un bouquet énergétique.
Exactement.
Que l'on espère. Oui.
Et c'est intéressant, par exemple, on parle beaucoup de la sensibilisation, par exemple, des Suisses ou des Allemands. Ils posent la question, les Français, d'où vient cette sensibilisation? Et là, par exemple, je peux dire, dès que quelqu'un, un particulier, un citoyen, fait une petite centrale solaire, commence à produire de l'énergie lui-même.
Oui.
Et comme ça, il est automatiquement sensibilisé parce qu'il va comparer la facture EDF ou la facture, en tout cas, de la compagnie qui gère l'énergie et il va comparer avec ça qu'il a produit lui-même. Il devient producteur de l'énergie. Et si on laisse vraiment des gens produire de l'énergie et aussi bénéficier des productions de l'énergie, là, vous avez un décentralisme, vous avez une décentralisation des productions de l'énergie. Et c'est ça qu'il faut. Comme on connaît de la nature. Oui.
C'est peut-être pas ça qu'on veut hein, aussi chez nous, Jean-Marie. Peut-être pas forcément décentraliser l'énergie.
C'est ce qu'on voudrait quand même.
Oui.
On voudrait quand même. On voudrait, par exemple, répondre positivement à l'invitation de l'Union européenne qui voudrait qu'en 2010, 21% de l'électricité vienne des énergies renouvelables.
On rappelle qu'il y a quand même l'hydraulique qui fait 15%. Hein,
donc absolument. Il reste les 6%. Et pour les 6%, c'est très compliqué.
Oui.
Parce que pour les éoliennes, on en a 60 fois moins que nos amis allemands. Et puis que l'Académie de médecine a dit que ça faisait un bruit épouvantable. J'étais très surpris de voir l'Académie de médecine s'occuper des éoliennes. Ça m'a paru étrange. Il y a une chose qui me paraît étrange à Bâle, il faut que vous m'expliquiez. C'est une très belle ville. Et alors, il y a des travaux à Bâle. Alors, il y a des travaux à Bâle depuis à peu près 30 ans. Mais alors, il se passe une chose que je trouve admirable. c'est que malgré les travaux, les trams passent à travers les travaux et les voitures font du slalom autour des trams. C'est très très curieux. Donc vous avez privilégié
le transport en commun.
Absolue le tram, ah, oui. Absolument, malgré les travaux. Et la voiture, elle se débrouille à peu près comme elle peut. Et ce qui me frappe aussi beaucoup en Suisse, c'est que quand on va dans une gare en Suisse, n'importe où, qu'on descend du train et qu'on veut aller dans une autre ville prendre une correspondance, on l'a immédiatement. Nous avons l'habitude, nous Français, de descendre dans une gare et d'entendre le discours suivant, correspondance pour tel endroit dans une heure et demie, deux heures. Alors ça n'existe absolument pas en Suisse. On peut traverser toute la Suisse dans tous les sens avec des correspondances qui sont immédiates partout. Et là, je trouve que la Suisse est très en avance sur nous, en tout cas, bien que nous avons fait des progrès importants en ce qui concerne les trains régionaux. Là, c'est un domaine où on a fait des progrès. Oui. Maintenant.
Alors, vous n'allez pas pouvoir forcément répondre, Frédéric, sur effectivement ces travaux.
Alors, les fameux trous qu'on fait partout dans les rues à Bâle, ce sont des trous de Bâle.
Oui, bien sûr, c'est très amusant. Il est formidable, il est en pleine forme, j'en appelle. En ce qui concerne. Ah, mais ça fait marrer tout le monde. C'est ça. Mais c'est du direct, hein, c'est comme ça. Frédéric Duvinage, lorsque l'on parle aussi d'énergie, comment ça se passe que là, on souhaite vraiment à réduire la facture énergétique des Bâlois et...
Alors les Bâlois ont lancé un projet pilote. D'abord, c'est un projet qui est au niveau de la Confédération suisse, qui s'appelle la Société 2000 watts. Oui. Actuellement en Suisse, chaque personne consomme à peu près 6000 watts d'énergie par an. Et le but de la Confédération, c'est de diminuer cette consommation par 3. Ça veut dire que chaque habitant utilise 3 fois moins d'énergie sur une année. Et Bâle est devenu un des projets pilotes pour toute la Suisse avec son projet Nova Atlantis. Et donc c'est un projet qui a commencé en 2001 et depuis 2004 sur Bâle, on voit qu'il y a un accent qui a été mis très fortement sur la construction. Puisque dans le bilan énergétique d'une société comme la Suisse, la construction, donc le secteur de la construction, construire les matériaux, construire les maisons, etc., le chauffage, représente à peu près 50% de la consommation totale de l'énergie.
D'accord.
Donc il y a des possibilités de très fortes économies dans le domaine de la construction. Donc les exemples les plus banaux, ce sont par exemple les lampes à économisatrices d'énergie qui consomment beaucoup moins. Mais aussi maintenant on voit il y a les possibilités de faire des maisons à énergie positive. Et sur Bâle, les grands projets ont été. Il y a un grand projet qui a été lancé avec la construction justement de ces bâtiments qui consomment beaucoup moins et qui demandent beaucoup moins d'énergie pour la conception à le quartier Erlenmatt. C'est sur l'ancienne gare marchande de la gare allemande en fait sur Bâle. Et on voit que c'est quelque chose qui est très important pour ce canton et que le canton a préparer en fait une somme d'1 million d'euros jusque 2008 pour pousser les innovations technologiques dans ce domaine, pour essayer de faire en fait des essais-erreurs, parce que dans le domaine de l'environnement, on ne peut avancer que si on prend le risque de faire des essais-erreurs.
Oui,
et la Suisse, comme c'est un petit pays, c'est vraiment un grand avantage par rapport à la France. On est dans un petit pays qui fait beaucoup d'essais. Et en France, on est dans un grand pays qui est beaucoup plus lourd à bouger.
Et donc, ces exemples-là, ça intéresse aussi l'Allemagne, donc c'est une initiative locale qui a des répercussions aussi en Allemagne.
Donc on a vu dans les journaux récemment que Angela Merkel venait de prendre en fait cette idée et elle va essayer de voir comment on peut l'appliquer pour l'Allemagne. Et je pense que c'est très positif. Et là on voit un exemple concret du passage des idées d'un pays à l'autre. Donc je pense qu'il faudrait voir comment on peut faire passer cette idée en France. Mais on voit bien qu'il y a de plus en plus d'initiatives au niveau français, que ce soit à Lille.
Non, mais réellement, il y a quand même beaucoup de communes, d'agglomérations vraiment qui s'y mettent. Et c'est quand même de très beaux résultats, en tout cas, à venir. Et pas seulement, évidemment, il y a Chalon-sur-Saône, qui est tout à fait exemplaire aussi comme ville qui s'y est mise depuis longtemps et qui a donc explosé, dans le bon sens du terme, la production d'effets de serre par rapport à ce qu'impose Kyoto. Mais il y a vraiment de nombreuses municipalités vraiment qui prennent ça en compte. Vous ne nous avez pas dit tout à l'heure, Jürgen Hartwig, je vous ai parlé effectivement des différentes mentalités, vous nous avez parlé de la Suisse, de la France, l'Allemagne, qu'est-ce que c'est? Donc,
peut-être tout court, pragmatisme, oui, d'accord, essayer dans un court temps, vraiment réaliser quelque chose. Et comme il l'a dit, je pense très important, on peut faire des essais, on fait des essais, et si on fait des essais, on fait des erreurs en même temps. Ça, on a fait... à Fribourg aussi beaucoup d'erreurs et je pense pour la France c'est maintenant plus facile parce qu'on peut leur dire voilà cette erreur on a déjà fait Et pour éviter ça, on peut aller maintenant plus vite.
On peut capitaliser sur les expériences des autres.
Oui.
Je vois aussi que dans le domaine des déchets à Fribourg, là, vous êtes pas mal parce que qu'est-ce que vous faites de vos déchets? Donc, vous les transformez bien, vous faites de la méthanisation, qu'est-ce que vous faites?
D'accord, un exemple, par exemple, pour la méthanisation, il y a des poubelles marrons à Fribourg où on collecte la matière organique de la cuisine. C'est à peu près 100 à 120 tonnes qui arrivent chaque jour dans une entreprise privée. Et c'est intéressant, cette technologie qu'il utilise, c'est une technologie française qui s'appelle Valorga. Et il traite ces biodéchets pour faire des biogaz et après électricité, chaleur et compost. Et c'est intéressant, l'approche, comme je disais, c'est toujours citoyen. Ces composts, vous pouvez l'acheter moins cher. En tant que citoyen, ça veut dire juste aujourd'hui, le samedi, normalement samedi matin, il y a beaucoup de citoyens qui viennent avec leur petit remorque, ils achètent des sacs à 1 euro, 1,50 euro pour les mettre dans leur jardin. Et ça, c'est important parce qu'il faut la transparence, il faut que les gens savent pourquoi ils font les tri, pourquoi ils vont sélectionner ces biodéchets.
Oui.
C'est pour ça, pour ne pas. Ils vont être sûrs qu'ils vont vraiment faire quelque chose avec. Ils vont faire de l'énergie avec, ils vont faire des composts. C'est ça, je pense, important. Il ne faut pas mettre la déchetterie à 10 km ou très loin. Et les citoyens ne peuvent même pas...
Il faut qu'il y ait une appropriation aussi de cela.
Oui.
Très souvent, il y a l'argument, en tout cas en France, qui revient. On vous dit développement durable, c'est bien gentil. Toutes les normes HQE, tout ça, c'est parfait. Enfin, ce n'est pas les normes d'ailleurs HQE. Mais ça nuit au développement économique parce que ça coûte trop cher. Quelle est votre réponse aujourd'hui?
D'accord, on parle beaucoup de l'HQE en France. D'accord, il y a 14 cibles. Moi, je trouve ça très bien, mais un peu, au début, un peu trop compliqué. Surtout pour expliquer à un particulier, c'est trop compliqué, oui. 14 cibles. Mais maintenant, on sait, nous sommes à $75 les barrel fuel. Maintenant, chaque année, chaque mois, on doit payer, chaque particulier a reçu une facture beaucoup plus chère, plus haut. Et maintenant, ça passe par la monnaie, ça passe par les euros. Et comme ça, maintenant, les gens comprennent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut isoler les bâtiments à l'extérieur,
oui,
bien sûr,
ça.
Pas à l'intérieur. Il faut investir l'argent dans l'enveloppe du bâtiment.
C'est vraiment une des clés, isolation extérieure, et c'est aussi peut-être tout le problème aussi de la rénovation dans les bâtiments anciens. Combien de personnes travaillent pour l'environnement? Parce que c'est quand même très créateur d'emplois chez vous.
Oui, ça, c'est pas une chiffre que je donne comme ça, c'est vraiment vérifié. C'était la ville qui a fait une enquête sur ça, et c'est à peu près 10 000... 9 000 et quelques jobs créés à Fribourg dans le domaine de la technologie environnementale, énergie renouvelable.
Bon, ça nous donne quand même envie, ça, c'est quand même de l'espoir, tout ça, Jean-Marie Pelt.
Oui, mais je pense qu'on ira dans cette direction-là. On ira d'autant plus vite que le problème du pétrole se posera avec plus d'intensité, parce qu'on avance surtout quand on a un peu le nez contre le mur.
Oui.
Et on va essayer de rattraper, je pense, ce retard. Je suis très frappé de voir qu'en France, les collectivités territoriales, les communes, les départements
se mobilisent
de plus en plus sur ces thèmes-là maintenant.
Oui.
Alors au niveau national, c'est encore assez fragile. Mais à la base, il se fait quand même beaucoup de choses.
Merci beaucoup. Merci à Frédéric Duvinage. Merci à Jürgen Hartwig. Merci à Jean-Marie Pelt. Au public de Saint-Louis qui est avec nous. Et qui va pouvoir rencontrer Jean-Marie et nos amis avec son dernier ouvrage, donc qui s'appelle « Après nous, le déluge ». Je vous le rappelle, mais vous le savez, vous avez une très jolie réserve naturelle à côté de chez vous, qui est la petite Camargue alsacienne. C'est un vrai petit bonheur, c'est à côté de Saint-Louis, c'est vraiment à visiter. Merci à toute l'équipe de France Bleu Alsace, je n'oublierai pas, donc Frédéric Mouret, Paul Pruvot, Arnaud Bourg, Frédéric Traverseau, qu'il soit remercié, Jean-Baptiste Audibert, Jean-Christophe Pinaza, Xavier Pestudia, Denis Chessou, je vous retrouve la semaine prochaine. On peut réécouter sur votre MP3, cher Jean-Marie. C'est formidable de pouvoir réécouter cette émission si vous le souhaitez. Ce n'est pas un rasoir électrique, je vais expliquer comment ça marche. Et puis, la semaine prochaine, on vous retrouvera, Jean-Marie, on ira dans le Pays Basque, ce sera tout à fait autre chose. Et il y aura aussi Nathalie Fontrelle. Dans quelques instants, Le Monde selon WAM avec Isabelle Giordano, donc les adolescents. On vous souhaite un excellent week-end, profitez-en bien. Et sur France Inter, vous l'avez compris, il est 15h. On retrouve tout de suite Michel Khalifa pour les infos.